Ah oui, pardon. Je m'excuse. Mais... Il y a un truc que je tiens à tout près à dire, parce que j'ai trouvé ça très drôle. Ça vous fera pas rire du tout, mais moi, je trouve ça très drôle. Donc je l'ai écrit. Et là, vous êtes tous flous, comme ça, je peux vous foutre de moi. Donc, à l'occasion de la fête des parfumeurs et des fleuristes, lamentablement baptisée Journée de la Femme pour bien faire sentir à celle-ci que les 364,25 autres sont le privilège de l'homme, je ne parle pas ici de l'animal, hein, qui compte deux sexes et une infinité de possibilités d'en user, mais de la bestiole à poil plus ou moins dru, dont l'unique sexe lui dévore les neurones. Chers amis, à l'occasion, disais-je donc, avant de digresser l'emporte-pièce, je vais me faire un plaisir de rappeler que si Verne et H.G. Wells sont souvent cités comme les premiers auteurs de science-fiction au sens moderne du terme, c'est Mary Shelley qui, avec Frankenstein, a écrit le premier ouvrage du genre. Marie est un prénom féminin, en l'occurrence. Ce qui forcément va m'amener à ma première question, la seule que j'ai préparée, vous êtes prévenus. Sans connaître le nom de l'auteur, est-il réellement possible, quand on lit Frankenstein, de deviner que c'est une femme qui a écrit ce
texte ? Non. Jeremy ? Non.
Non, non, je me tournais d'un côté, j'ai entendu non, non ici, donc bah, du coup, il n'y a que
non. Bah non.
Non, non, ça paraît quand même relativement difficile. Après, on va se poser cette question intéressante. Du coup, bah, existe-t-il une écriture féminine ? Hein, je sais pas, tiens, Nadia, dis-nous.
Ben non. De la même façon.
Est-ce que tu écris comme une femme ?
Non, alors c'est-à-dire que moi j'étais un garçon manqué quand j'étais petite, donc j'écris peut-être comme un garçon manqué, je sais pas. Mais non, non, j'écris comme je suis comme une personne. Et je pense que si j'avais été un garçon, j'aurais peut-être écrit de la même façon, mais peut-être des thèmes différents, j'en sais rien. Toujours est-il que ça me fait beaucoup rire quand je vois des critiques ou des chroniques sur des romans qui disent « Ah, on voit bien qu'il y a une sensibilité féminine ». Je me dis, si j'avais pris un pseudo complètement neutre, comme j'avais un petit peu pensé au départ, est-ce que vraiment on a eu la même critique quand je dis « Ah, le personnage principal est un garçon, vraiment, elle a su se mettre dans la tête d'un garçon ». Oui, bah, en même temps, enfin... toute œuvre est fiction, donc forcément tous les personnages, si on écrit son autobiographie, c'est pas nous, donc on se met forcément dans sa tête, que ce soit une autre femme ou un autre garçon, finalement, voilà, on écrit de la même façon, et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs garçons qui vont dans la tête de personnages féminins, et on leur dit pas, ah, quelle sensibilité féminine. Voilà.
Oui,
ouais, si, moi, il y a un roman que j'ai lu de Pierre Bordage qui s'appelle Le Feu de Dieu. Et il y a un passage dedans, c'est une jeune fille qui risque de se faire violer, donc je ne sais plus quel âge elle a, et ce passage-là a été décrit tellement, ça a été décrit avec une telle sensibilité que je me suis dit, c'est pas possible, ça ne peut pas être Pierre qui l'ait écrit, c'est con, je vais avoir une réaction comme ça, mais c'est quand même, voilà, c'est ce que j'ai eu. Et je me suis dit en même temps, s'il a eu cette sensibilité-là, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Est-ce qu'il y a un rapport ? Est-ce que... Donc j'ai essayé d'en discuter avec lui, et non, il a su parfaitement se mettre dans la place, enfin dans la peau du personnage féminin. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc si c'était une femme ou un homme qui l'ait écrit, ça aurait été exactement la même chose.
Tu as un peu traité de la pédophilie dans un ouvrage. Est-ce que tu penses qu'un homme aurait traité de la pédophilie autrement ou
Autrement que comme moi ?
Pas que... Oui, enfin, autrement que comme toi ? Ben non. Bah oui.
Est-ce qu'il l'aurait traité différemment ?
Oui, parce que c'est une...
Mais tout dépend s'il l'a vécu ou pas.
Voilà, donc effectivement, c'est
l'expérience. C'est pas le femme, c'est pas la femme, c'est pas l'homme, c'est l'expérience. C'est soit l'expérience, soit le vécu d'autres personnes qu'on essaie de mettre en scène, ou soit la faculté que l'on peut avoir de se mettre à la place de... Maintenant, oui, moi j'ai été éduquée comme un garçon, donc j'ai peut-être plus de facilité, je sais pas. C'est... Non, je pense pas. Et toi ?
Sur la pédophilie, en particulier ?
Non, pas forcément.
Bah, ouais, enfin... moi, quand j'ai écrit Narco-Jeunesse, enfin, quand j'ai publié Narco-Jeunesse, parce que, enfin, dans les critiques que j'ai pu avoir, très, très sexistes, dans les quelques critiques, c'était... c'est un roman qui touche la maternité, donc c'est un roman de bonne femme. Voilà. Mmh. Si un homme n'était pas capable d'imaginer ce qui est la maternité, ou même de faire une quelconque recherche documentaire pour savoir ce qui est la maternité, le ressenti vis-à-vis de la maternité, d'autant plus que dans Narco-Jeunesse, Moi, c'était pas trop le ressenti sur la maternité, c'était plutôt l'image qu'on avait de la maternité, donc un homme aurait pu traiter de la même façon. Je pense que l'idée d'écriture féminine, de toute façon, pour tout auteur qui a traversé ou qui est né après les années 70, est complètement aberrante en soi, puisqu'on a été élevé, on a traversé une époque où l'idée de genre a commencé à devenir plus, et Dieu merci, plus confuse. Voilà. Ce qui est intéressant, ce que tu disais sur Marie Shelley, c'est que nous, on ne peut pas savoir que c'est une femme, parce que dans Marie Shelley, justement, il y a tous les poncifs qu'on peut trouver sur les hommes et les femmes. On a cette image de la femme romantique qui crache ses poumons dans son mouchoir de Baptiste, la fiancée éternelle. On a l'homme, évidemment, en proie avec des sujets très sérieux comme la science ou une forme de métaphysique. Donc, on est en plein dans ces poncifs-là. Donc, Marie Shelley n'a pas écrit une histoire de femme, elle a écrit un roman de son époque, début du 19e. Voilà.
Moi, je dirais que si Elle Moore, par exemple, ou James Tiptree Jr., ou Gilles Thomas, ont longtemps été considérés comme des auteurs masculins. Et pourtant, c'était des femmes. Et je citerai Belinda Cannon, qui est une penseuse française, qui a eu cette phrase merveilleuse qui est « Nous ne sommes hommes ou femmes sexués que dans notre séduction et dans notre sexualité. Le reste du temps, nous ne sommes que des êtres humains. »
Mais je me demande s'il y a des sujets, des thématiques qui sont plus facilement abordées par les hommes ou par les femmes. Parce qu'on a quand même un vécu différent, ça démarre à l'enfance et on le voit encore dans les publicités, par exemple, un petit peu partout, hein, très clairement. À part, je ne sais plus qui récemment a osé proposer des jouets pour les garçons qui étaient, je ne sais plus, des poupées. Voilà.
Super U.
C'est Super U, voilà, qui a pris à contresens, sinon les trois quarts du temps. Quand on informe les enfants dès leur premier âge quasiment, on les informe d'une sexuation particulière, d'un genre particulier. Donc est-ce que ça n'entraîne pas petit à petit, avec l'éducation, non pas des réflexes, mais l'envie de traiter des thématiques particulières, plutôt quand on est masculin que quand on est féminin, plutôt que quand on est féminin ou masculin?
Moi, je ne suis pas d'accord. Par exemple, en 2000, j'ai fait partie d'une anthologie féminine qui s'appelait Cosmic Erotica, qui réunissait 17 femmes auteurs du monde entier autour du thème de l'amour et du sexe. Nous avons été deux à parler d'amour ou de maternité. Toutes les autres se sont montrées dans la violence, dans la dureté, dans comme si elles avaient peur de toucher à des thèmes qu'on aurait pensé féminins et d'être jugées par rapport à ça. Et ce que je vois régulièrement dans des textes soi-disant féminins, c'est une d'autant plus grande dureté, c'est une d'autant plus grande agressivité par rapport à certains thèmes que les hommes traiteraient de manière beaucoup plus douce et avec beaucoup plus de pincettes.
Oui, c'est intéressant parce que justement, il n'y a pas longtemps, je me faisais la réflexion que les livres que je pouvais lire qui avaient un propos dit féministe et en particulier dans l'imaginaire étaient des livres dans lesquels à chaque fois on utilisait le viol. C'est effectivement, on est dans cette forme de violence alors que on devrait pouvoir justement défendre les femmes en montrant des archétypes très positifs et pas obligatoirement des hommes qui dominent les femmes, mais montrer un exemple positif. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec ça, avec cette violence, et je suis tout à fait d'accord avec le fait que dès l'enfance, de toute façon, quand on rentre dans un magasin de jouets, on a d'un côté des aspirateurs, des poupées et des petits poneys, de l'autre côté des jeux de construction et des armes, et donc on est encore là-dedans, les filles sont destinées à devenir des ménagères, et les hommes sont destinés à devenir des ingénieurs ou des soldats. C'est le principe de toute façon de...
Après l'éducation parentale, je trouve, enfin, on va dire avec les nouveaux pères, avec tout plein de guillemets qui existent depuis depuis quand même pas mal d'années maintenant, l'imitation et tous ces jeux d'imitation, jouer à la maman, tout ça, bah, les petits garçons jouent au papa finalement, et cette place de petit garçon qui va devenir un homme, qui va pas être un homme comme dans les années 50, est déjà en marche, quoi. Donc de ce côté-là, même si au niveau commercial, ça reste quand même un peu figé, c'est toujours pareil. Hein. C'est les gens qui vont essayer de vendre.
Oui, mais le problème, c'est la société. Dans des milieux plutôt favorisés d'un point de vue culturel, d'ailleurs, c'est le propre du propos féministe, c'est que c'est utilisé effectivement sur certaines éducations dans certains milieux. C'est pas encore propagé. Il y a un poids de la société qui fait que, de toute façon, on est encore dans des schémas, on en parlait tout à l'heure. Sur par exemple la naissance d'un enfant où on attend obligatoirement un garçon, on est encore là-dedans dans beaucoup de milieux, donc c'est en marche. Je pense que la génération de nos enfants effectivement sera une génération beaucoup plus à l'aise avec cette idée de genre, de partage des tâches, de voilà.
Mais en même temps, ce que je vois aussi, c'est que la société, l'école, la cour de récréation forme aussi des idées d'un autre âge et réduit les enfants à des rôles sexués qu'ils n'auraient pas forcément choisis.
Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit le collectif, là, Fernand Lanto, dans lequel tu étais. Donc, vous n'étiez que deux à traiter, ce soit un peu plus romantique.
Oui, Joël-Vin Sobert et moi.
Alors que quelque chose comme ça, et que les autres c'était beaucoup plus dans la violence, dans l'agressivité. Mais est-ce que c'est pas justement une certaine façon de montrer la force de la femme par rapport aux hommes? C'est une question. Après, je sais pas comment elles ont écrit, hein, je sais pas quel était le but de leur texte, mais c'est ce qui fait peur aussi souvent à l'homme. C'est la force de la femme et cette envie de montrer qu'on est capable de se battre et d'être tout aussi violente. Je n'accepte pas, hein, je n'admets pas forcément ça, mais voilà, est-ce que ce n'est pas cette forme-là non plus?
Il s'est trouvé que je leur ai posé la question, que je suis intervenue, je leur ai posé la question à un grand nombre d'entre elles, sur le fait que quand un homme écrit de manière sensible, parle d'amour par exemple, il est sensible, il est ouvert, etc. Alors que quand une femme le fait, elle est fleur bleue, elle écrit à l'eau de rose. Et un grand nombre de ces femmes, pour éviter ce jugement, ont choisi de traiter de sadomasochisme, de viol, de pratiques extrêmes, pour ne pas être accusées de cette sensiblerie qu'on dit féminine.
Je repense aussi à un bouquin de Greg Kays, Les enfants du fleuve, et il y a une héroïne qui a 12 ans, et qui est confrontée à ses premières règles. Et je me suis fait la réflexion en sortant du bouquin, enfin vraiment à ce moment-là, sortir du bouquin en me disant cet homme qui écrit ça a vraiment compris et a réussi à décrire. Et je me suis surpris moi-même à me dire un homme a été capable de le faire ça, alors que finalement c'est un peu quelque part ce qu'on se disait, cette sensibilité-là. Est-ce qu'on n'aurait pas eu le nom de l'auteur? On se serait dit c'est forcément une fille qui a écrit ça, parce que cette sensibilité-là, ce point de détail, ben non, on en revient à l'expérience, on en revient à se mettre dans la tête de l'autre, et finalement il y a aussi des hommes qui ont des thèmes qui les touchent et qui sont a priori et avec des gros a priori féminins au départ, et finalement quand ils se les approprient, ben ils servent leur histoire aussi, quoi.
Quand on discute avec les éditeurs, est-ce qu'il y a un problème avec est-ce que l'éditeur a une attente particulière vis-à-vis d'un auteur féminin par rapport à une attente qu'il pourrait avoir vis-à-vis d'un auteur masculin?
Mon éditrice principale, c'est Mireille Rivalent, donc je ne réponds pas.
Non, t'as jamais.
Non, moi, ce que j'expliquais, c'est que quand on avait publié mon premier roman, on s'est posé la question au niveau du nom, de savoir est-ce qu'on met ou pas, c'est une femme qui l'a écrit, et puis moi j'étais plutôt pour cacher ça en me disant j'aimerais autant que le lecteur justement qui le lise suive ce personnage garçon sans se dire c'est une fille qui l'a écrit. Et en fait mon éditeur m'a dit laisse tomber, de toute façon au bout de 2 minutes on aura mis ta photo dans les promotions, les trucs, on saura qui tu es, donc c'est pas la peine. Et effectivement avec le recul je me rends compte que tout va bien et on a eu raison de garder le nom comme ça sur le... mais cette question là effectivement s'est posée. Ce que je expliquais tout à l'heure, c'est que sur un livre, enfin je suis en train de travailler sur un livre sur le foot, et là pour le coup une fille ne peut pas écrire sur le foot, parce qu'elle n'y connaît rien. Donc, voilà. Donc là, je pense qu'au niveau du nom, on va peut-être faire quelque chose. Parce que je pense que les papas...
Non, refuse. J'ai écrit un roman sur le monde des courses moto. Je suis une fille, ça a été très très bien accepté. Bon... Si je fais ça, c'est parce que le personnage principal, c'est une héroïne dans le monde des courses moto.
Moi, c'est un garçon, voilà.
Mais alors, cela dit, moi, c'est vrai que là, je me souviens mon dernier roman qui sort là chez Rajo, une des remarques de l'éditrice, c'est que c'était trop masculin. Voilà, c'était une des remarques, c'était ça, parce que il n'y avait pas de personnage féminin. Dit fort, qu'il n'y avait que des garçons, du coup c'était trop masculin. Voilà.
Donc il lui manque une sensibilité dite féminine.
On me l'a reproché aussi sur certains textes d'être trop dur.
C'est une constatation, c'était pas du tout un reproche.
Trop dur, trop cruel, trop critique envers certaines femmes et donc de trahir mon sexe.
C'est fou, ça peut pas nous laisser.
On n'a pas la représentation de la femme cliché. On a forcément des personnages de femmes.
Déjà, il faudrait arrêter de parler de la femme et de commencer à parler des femmes.
Non, c'est l'humain tout court. Parler de l'humain. Qu'il soit du sexe féminin ou masculin, on s'en fout. C'est parler de l'humain, c'est l'humain. C'est un humain qu'on met en scène, qu'il soit masculin ou féminin. Il n'y a aucune différence.
Après, comme on s'efforce un certain réalisme, on essaye de lui donner une personnalité différente, mais effectivement, c'est
comme l'humain est.
Il ne faut pas qu'on tombe dans les quotas comme à la télévision où il faut forcément des minorités visibles, des femmes.
Mais nous sommes une minorité.
Une minorité qui est quand même majoritaire, mais.
On est tous à peu près on écrit tous dans les domaines de l'imaginaire. Les différents domaines d'ailleurs, fantasy, fantastique, science-fiction et trans-fiction, pour d'autres. Il y a une chose qui est intéressante parce qu'il reste ancré dans l'image du public et de certains éditeurs, de certains de nos grands éditeurs, l'idée que la science-fiction s'adresse aux hommes et que la fantasy s'adresse aux femmes.
Parce que les femmes n'ont pas eu accès aux jeux de construction ni aux fusées.
C'est trop compliqué.
Moi aussi. Moi, il n'y a qu'avec ça que j'ai joué.
Ça, c'est comme quand tu vois les filières littéraires où il y a beaucoup plus de filles et les filières scientifiques où il y a beaucoup plus de garçons. Est-ce que, enfin, est-ce que c'est un
qui choisit ?
Est-ce que c'est un goût ou est-ce que c'est une filière scientifique ?
Ah non, c'est filles quand même. Alors, il n'y a pas plus de garçons dans les filières littéraires, mais il y a plus de filles dans les filières scientifiques.
Parce que les filles ont déjà tout gagné, elles se sont déjà suffisamment battues. Maintenant, elles savent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et les générations de maintenant, elles savent qu'elles ont le choix, qu'elles ont moins besoin de se battre. Les hommes, ils n'ont pas encore compris qu'il fallait qu'ils commencent à se battre pour avoir leurs droits et leur place. Mais voilà, pour l'instant, les femmes ont la
tirer. Moi, j'ai une amie...
En arrivant sur le marché du travail, en ayant 25% de salaire au moins, et en étant mise au placard dès qu'elles auront une enfance, elles vont vite le comprendre, parce qu'en revanche, là, on en est encore là. C'est dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est ça.
Moi, j'ai une copine qui voulait être astrophysicienne et à qui on l'a refusée parce que c'était une fille. Elle a 34 ans. Aujourd'hui.
Mais quand vous dites « on », excusez-moi, c'est qui ?
Les conseillers d'orientation de lycée.
Mais pourquoi elle n'est pas passée par-dessus ?
Parce que souvent, les parents écoutent les conseillers d'orientation.
Mais elle n'a pas eu la force.
C'est ça, on demande aux femmes d'avoir la force de passer au-dessus de quelque chose.
Si elle avait vraiment envie, elle a pas.
Et en même temps, bon, on parle de féminisme, mais moi, ce que j'aurais envie, c'est qu'on libère les petits garçons, qu'on leur permette de s'habiller comme ils veulent, et pas dans leur carcan de petits garçons, qu'on leur permette de jouer avec tous les jouets possibles et d'espérer des professions qui ne soient pas sexuées.
Mais ça, c'est une question sociétale et d'éducation. Après, c'est chacun fait comme il veut, mais avant que ça rentre dans les mœurs, tu me laisses.
Ça m'évoque une question assez intéressante, parce qu'on voit bien manifestement que par l'intermédiaire du féminisme, on arrive à un certain humanisme, donc à une compréhension globale de la société, à pouvoir manipuler des personnages féminins comme masculins, à créer des sensibilités ou des douleurs, ou les mettre en scène assez facilement quand on est une femme, c'est-à-dire aussi facilement que le ferait n'importe quel être de n'importe quel sexe. Mais tout à coup, il me semble qu'il existe encore une littérature très machiste et très phallocrate qui n'est quasiment commise que par des hommes. À la question y a-t-il une écriture féminine, je réponds non, mais y a-t-il une écriture masculine? Il me semble, à défaut d'être masculine, qu'on voit encore une écriture phallocrate très très présente dans le domaine de la science-fiction. Je vais en profiter pour taper sur mes collègues masculins parce qu'ils ne sont pas là.
C'est bien dommage.
On a eu des discussions. Enfin, est-ce que Serge Lehmann, est-ce quand on lit du Serge Lehmann, c'est un exemple, mais est-ce que quand on lit du Serge Lehmann, on ne lit pas instantanément, même sans connaître son nom, un auteur masculin? Et quelle est la différence qui fait que tout à coup, on va trouver chez lui cette évidence qu'il est masculin?
Mais ne me regarde pas, ce que tu vas m'obliger à dire, je n'ai jamais lu Serge Lehmann.
Quand on lit Aucune étoile aussi lointaine, Aucune étoile aussi lointaine, par exemple, est un roman purement masculin avec une dimension phallocrate et machiste assez forte. Le nôtre qui se fait fabriquer par l'intelligence artificielle de son vaisseau, une entité féminine pour baiser.
C'est à ça que ça sert. En même temps, une intelligence artificielle.
Donc, il n'y a pas plus d'écriture masculine finalement que d'écriture féminine.
Non, c'est plus qu'on peut écrire. Dépend ce qu'on veut foutre dedans.
Si on me demandait d'écrire un roman machiste, je le ferais.
Mais moi aussi. Et je m'amuserais bien.
Je m'amuserais, mais je m'éclate.
Voilà, moi aussi.
Puis à la fin, par contre. Mais oui, parce que je suis comme ça. Pas parce que je suis une femme. Parce que je suis comme ça.
De toute façon, on met tellement de nous dans nos histoires que de toute façon, on ne peut pas vraiment aller contre nos convictions. On peut y aller en les détournant, mais forcément, ça, on transparaît un petit peu ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Comment on voit le monde, quoi. Donc, forcément.
Est-ce que le problème ne vient pas du fait qu'on est dans des sociétés, enfin, en Europe, schizophrènes? C'est-à-dire que d'un côté, il y a un discours égalitaire. En Allemagne, il y a une chancelière, c'est extraordinaire. Et en même temps, on nous explique qu'en Allemagne, les femmes, lorsqu'elles ont des enfants, ben, ma foi, elles quittent leur métier et elles se mettent à élever les enfants. Les deux trucs ont l'air de fonctionner en même temps, sans que ça pose de problème. On saute de l'un à l'autre tranquillement. Ça se ressent dans la littérature, forcément. Comme ça se ressent déjà dans la vie normale, ça m'étonnerait que ça n'ait pas des coups dans la littérature, cette schizophrénie.
Enfin, c'est pas vrai, ça pose quand même beaucoup de problèmes
en Allemagne. Surtout par rapport aux Allemandes de l'Est.
Voilà.
Je ne dirais rien.
Je ne dirais rien, ça pose beaucoup de problèmes.
Bien sûr, on reste dans des sociétés patriarcales.
C'est-à-dire qu'on demande à des femmes à faire. On leur demande de faire des choix pour leur vie. Pour lier par exemple à leur carrière, à leurs enfants ou autres, des choix qu'on ne demande pas à des hommes. Donc effectivement, mais après, il y a d'autres. Moi, je pense au divorce et aux gardes d'enfants qui sont, au moins 80%, qui sont la plupart du temps donnés à la mère et pas au père. Cette inégalité-là, est-ce qu'à un moment, est-ce qu'elle ne devrait pas sauter aussi? Est-ce que ce n'est pas une évolution qui va y avoir à un moment?
Elle pourra sauter le jour où les femmes auront le même salaire que les hommes, à partir du moment où celui qui s'arrête de travailler, c'est obligatoirement, celle qui s'arrête de travailler, celle qui a un salaire moindre. Maintenant, c'est en train de changer un petit peu ça. Moi, je vois de plus en plus d'hommes parce que on est dans une période où les hommes, où il y a pas mal de chômage, où les hommes changent de métier, ou du moins assez facilement, où je vois que c'est en train de changer chez certaines personnes autour de moi. Je vois des couples effectivement qui fonctionnent autrement, où c'est la femme qui garde son travail, l'homme qui reste à la maison avec ses enfants, qui s'aperçoit que le parc c'est chiant, le quotidien c'est chiant, et qui revisite justement le métier ou l'état d'homme au foyer.
Donc c'est en train de jouer très doucement,
mais parce qu'on est aussi dans une période de précarité, il a fallu cette période de précarité. Je pense que tout changera le jour où le salaire des hommes sera le même que le salaire des femmes, la société changera tout simplement. Avec ça, c'est le nerf de la guerre. Et moi, je suis désolée de voir que les féministes qui sont médiatisées ne s'intéressent pas plus à ce genre de sujet, soit en train, parce que c'est celles, attention, je ne dis pas que toutes les féministes, mais celles qui sont médiatisées actuellement sont des femmes qui finalement ont remplacé la tyrannie patriarcale en choisissant à la place d'autres femmes, en prenant des décisions un petit peu inutiles, comme le fameux débat Madame Mademoiselle, où finalement le débat en soi était peut-être intéressant, mais bon, voilà, il y a un groupe de femmes qui a pris une décision, non, toutes les femmes sans les consulter. Moi, je ne vois pas de différence avec le pouvoir patriarcal. À ce niveau-là, Et le vrai débat va être sur l'argent, déjà, et du coup sur la reconnaissance sociale, parce que c'est aussi
très important. Voilà, mais le problème, c'est que souvent, ces hommes qui restent au foyer n'ont pas de statut. Quand ils doivent remplir des formulaires ou des choses comme ça, il n'y a pas la place pour le père. En tant que personne de référence par rapport à l'enfant. Comme j'ai rencontré des couples où ils avaient tenté cette expérience, l'homme restant à la maison, la femme allant travailler, et où la femme n'a pas supporté de perdre son statut de mère toute puissante par rapport à son enfant.
Ça dépend de chacun, oui et non, parce que cette idée de la mère toute puissante en ce moment a atteint son paroxysme avec cette mode du naturalisme. Donc je reviens toujours là-dessus, parce que moi c'est une mode qui m'horrifie absolument, pas dans le principe, parce que je sais très bien d'être proche de ses enfants et évidemment d'essayer de les éduquer autrement, mais cette mode du naturalisme que Elisabeth Badinter a dénoncé véritablement, pas le principe elle-même mais les conséquences sociétales de cette mode, où on est dans la mère toute puissante, où on est dans la mère qui dort avec son enfant, qui l'allait, qui le porte toute la journée véritablement comme un mammifère en soi, comme un bébé singe avec sa mère singe, dans une société où on n'a pas préservé quand même les enfants de danger mortel immédiat, et où effectivement ça renvoie non seulement la mère à la cuisine parce que et avec l'enfant, mais en plus ça enlève la place de l'homme. Donc on est dans cette idée de mère toute puissante, donc ça c'est on est en plein dedans d'un point de vue social, et on culpabilise énormément les mères de ne pas être là-dedans. C'est quelque chose, moi c'est l'origine de narco-jeunesse, ça. C'est moi quelque chose que j'ai vécu quand j'ai eu mon premier enfant, où j'ai compris que la place de la femme, en fait, toutes les failles venaient aussi de la maternité, qu'on utilisait la maternité pour ramener les femmes à leur véritable rôle et les culpabiliser. Alors si on n'allait pas, on est un monstre, si on ne peut pas dormir avec ses enfants, on n'a pas pris conscience de sa place.
De toute façon, la culpabilité est le point de départ.
Et que dire de celles qui n'en veulent pas.
Et que dire de celles, ces femmes qui, quand elles divorcent, laissent la garde de leurs enfants au père?
Qui abandonnent, j'ai abandonné
mes enfants pendant 5 ans. Ouais,
et moi, je ne serai jamais une femme, je ne connaîtrai jamais la plénitude de ma féminité, puisque je n'aurai jamais accouché.
C'est intéressant parce que je repense d'un point de vue littéraire dans les domaines qui nous concernent un petit peu. On a eu un mouvement féministe extrêmement fort, né avec Johanna Russe, qui a duré une bonne vingtaine d'années, qui était féministe au sens même presque sexiste du terme, c'est-à-dire qui poussait très très loin, qui essayait de renverser le machisme. Et il s'est délité tout à coup brutalement. Alors, à mon sens, quand sont apparus un certain nombre d'auteurs anglo-saxons, en l'occurrence américains, toujours dans ce même domaine de la science-fiction, qui eux ont pris le contre-pied, c'est-à-dire qu'ils se sont mis, les premiers auteurs de science-fiction masculins, à réellement employer une égalité des sexes dans les ouvrages. Ben, c'est John Varley, on est dans le milieu des années 70, on succède directement à cette période féministe ultra dure, avec la revendication de la castration, et pas qu'au point de vue politique ou sociétal.
Avec les utopies féministes.
Et il me semble qu'on n'est plus concerné par ce problème-là maintenant. C'est comme si un petit peu, en tout cas dans ce domaine littéraire précis que sont les littératures de l'imaginaire, on a légèrement dépassé ce combat homme-femme.
J'ai écrit un roman qui est sorti en 2011. J'ai créé une société matrilinéaire. Vous voyez bien ce que c'est, une bonne société matrilinéaire. Évidemment, il y a des hommes. Hein. Non, mais
vous savez ce que c'est?
C'est-à-dire matrilinéaire.
Est-ce qu'il y a un peu près matrilinéaire?
Matrilinéaire, au moins.
Vous savais pas ce qu'il y a.
Oui, bah, ça rajoute pas. Il y a une nuance.
Ah non, non, je me foutais de ma gueule.
Mais pas du tout.
Mais tout est transmis de la femme à la femme. L'homme n'a rien, ne possède rien.
Ah oui.
Il doit suivre la femme. D'accord. Donc j'ai inventé plusieurs clans et l'homme.
C'est comme en Asie.
C'est des sociétés qui existent en Inde, l'ENA, etc. Et moi, ce que j'ai voulu montrer.
Nomades.
Ce que j'ai voulu. Ouais, mais malheureusement, elles sont en train de devenir patriarcales.
Guéraud.
Ouais, ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'est, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'égalité des sexes, c'est la complémentarité. L'égalité, pour moi, n'existe pas. C'est la complémentarité. Et j'ai voulu montrer que même si on avait une société matrilinéaire, on va droit au mur, parce qu'il n'y a plus de complémentarité, il n'y a plus rien. Et donc, c'est la question inverse, c'est l'homme qui est dans ce roman, qui se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi moi, je n'ai pas autant de droits qu'eux? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit d'eux? C'est pas normal. Et je trouvais que c'était très, très intéressant. Cette, voilà, montrer cet autre côté.
Sur les féminines, un des points de départ a été finalement la réflexion de la place des hommes en tant que reproducteurs dans la société, en voyant entre tout ce qu'on entend au niveau de la pollution et tout, on voit que la fécondité des hommes baisse, on voit que finalement avec les techniques de reproduction assistées ou autres, les femmes ont de moins en moins besoin de l'homme de ce côté-là, et cette question-là, de cette place-là, de voilà, quand on n'est plus sur le basique, il faut des hommes et des femmes pour faire des enfants et que la société perdure au moins dans une petite portion, on va dire, il n'y a pas que ça. Voilà, à partir du moment où l'homme a plus ce rôle-là, est-ce qu'il a sa place s'il se la définit?
Non, mais...
C'est-à-dire que la femme a combattu pour définir sa place. L'homme a-t-il défini sa place aujourd'hui?
Ah, mais ça, c'est le grand problème de la génération.
Mais avant,
je
me disais,
les pauvres. Oui.
Mais en même temps, dans les littératures de l'imaginaire contemporaine, par rapport justement à cette dichotomie des années 70, on se retrouve avec des auteurs masculins et féminins qui ont des personnages féminins réels, humains, avec des caractéristiques, etc., qui ne sont plus des potiches, qui ne sont plus
la fille du scientifique,
la fiancée du héros, la fille du scientifique, etc., etc., qui commencent à avoir une véritable importance dans le récit. Ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça.
Bernard. Oui, je veux dire qu'il me semble qu'il y a quand même une grande partie du monde où l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes elle est parfaitement inversée par rapport à ce qui se passe dans le monde occidental. Il suffit de regarder la télévision, les actualités, pour voir qu'il y a toute une partie du monde où, au contraire, les femmes sont de plus en plus mises à l'écart, même mises à l'écart physiquement. C'est pas,
oui, un index.
Et ça s'est passé en très peu de temps.
Oui, et ça s'est radicalisé. Il y a des formes culturelles qui se radicalisent, y compris dans le monde ordinaire, y compris chez nous. Même les pratiques les plus anodines se radicalisent d'une certaine manière. Donc c'est vrai que c'est des évolutions qui vont dans le sens inverse aussi. Donc il n'est pas exclu qu'on revienne à un discours politique plus radical contre ça de manière plus importante.
Oui, mais les auteurs ne reviendront pas tout de suite. Il va falloir former toute une génération de futurs écrivains à accepter la société qu'on aura rentrée dans la tête.
À l'inverse.
À résister.
À l'inverse, je trouve que, enfin, j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec une amie qui a une quarantaine d'années, qui est une cinquantaine maintenant, qui est lesbienne, et on s'est rendu compte que j'ai plusieurs amis qui sont qui ont 16 ans, qui ont 12 ans, et on s'est pris un gros coup de vieille dans la tête, parce que nous, nos sexualités, du coup, autres qu'hétéro, nos genres qui n'étaient pas masculins, féminins, on a dû attendre plus de 20 ans avant d'arriver à les vivre en étant harcelé à l'école, en l'oubliant soi-même, en essayant d'être dans des carcans pour ne pas s'en prendre plein la tronche et tout. Et alors qu'il n'y a pas longtemps, j'avais rencontré un couple d'à peu près 16 ans. La fille ne se considérait pas comme une fille, le garçon ne se considérait pas comme un garçon, était plutôt féminin. Et là, j'ai discuté récemment avec sur Internet avec une amie qui a 12 ans. Malgré nos écarts d'âge, on a des sujets en commun et on peut discuter là-dessus. Et elle a, à son école, à son collège, visuellement, elle a été pendant 5 mois avec une autre fille. Maintenant, elle a un copain. Enfin, les nouvelles générations, par rapport à la bisexualité, par rapport au genre, à l'école, sont très, Évidemment, il y a toujours.
L'évolution est en cours. Pas de partout, enfin, ça dépend des milieux, mais.
Ce qui est très drôle, c'est que tu spoiles un peu ma conclusion, mais c'est vraiment génial, parce que se poser encore des questions sur l'existence d'une écriture féminine ou masculine nous paraît un petit peu désuet. Et même si on sent qu'il y a quand même des choses qui sont, dont la société ne veut pas se défaire, à un moment donné, donc, quand on aura totalement admis ça, on va se poser la question, existe-t-il une écriture homosexuelle? Existe-t-il une écriture transgenre? Non, on écrit avec l'expérience qu'on a et on décrit le monde tel qu'on le connaît. Il me semble à peu près tout ça. Hein,
Moi, j'estime que justement, par rapport à ce que disait Bernard, vu ce recul, vu ce retour en arrière à plein de niveaux, homme, femme, queer, quel que soit le genre, quel que soit le choix sexuel, ont un combat à mener contre ce retour en arrière, pour au contraire aller vers une humanité. Pour au contraire, comme je le répète, le texte de Belinda Cannon, pour se dire que oui, dans la séduction, dans l'amour, nous sommes peut-être sexués, quel que soit notre choix, mais le reste du temps, quand on écrit, quand on travaille, quand on jardine, quand on cuisine, est-ce qu'on est sexué?
À l'exception que Cannon rappelait, c'est en différence de salaire.
Mais il y a quand même une réalité aussi. Moi, je pense à cette chose qui me paraît toujours aberrante, de gens qui, parce qu'ils sont homosexuels, veulent aller chez un boulanger homosexuel, veulent avoir un chauffeur d'autocar homosexuel.
Mais comme les ultra-féministes des années 70, qui ne voulaient pas avoir affaire au moindre homme, quelle que soit sa profession. Voilà, comme ces sociétés américaines de construction, par exemple, constituées uniquement de femmes, qui sont engagés par des refuges pour des femmes, etc., parce qu'il ne faut surtout pas qu'un homme pénètre dans un gynécée.
Ça n'a jamais empêché l'intégrisme, en fait. Voilà. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est plus sensible, c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est plus ouvert, voilà, c'est un autre débat sur les choix ou les non-choix de sexualité.
Moi, j'ai une petite question de curiosité. On parle des différences de salaire, malheureusement réelles, entre les hommes et les femmes. Alors, j'ai une question à vous, mesdames, les auteurs. Est-ce que vous êtes moins payés en tant que...
Non. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier aussi.
Non, donc c'est pas les entreprises dans l'édition.
Il y a une différence entre littérature jeunesse et la littérature vieillesse.
Oui,
mais là,
ça,
c'est de la sous-littérature. Mais à part ça, tout va bien.
Ça vient d'un phénomène très particulier. Nous sommes payés en droit d'auteur, donc en royalty. Grosso modo, on est payé en fonction de ce qu'on rapporte. Donc, alors là, je peux te dire que l'éditeur se fout complètement de connaître ton sexe. Il est ravi que tu lui rapportes de l'argent, et auquel cas, il est prêt à te donner un petit plus, même éventuellement. Pour le reste, non, il n'y a pas de différence de traitement. S'il y a eu dans certains genres littéraires une différence de traitement, c'était il y a une. Ça s'est arrêté, on va dire, il y a maintenant bientôt presque 20 ans. C'était simplement, il y avait des domaines littéraires dans lesquels on n'acceptait pas les auteurs femmes. Ça a été le cas.
Qui prenait
des pseudos. Ça a été le cas dans la science-fiction, ça a été le cas pendant encore plus longtemps dans le polar et dans le noir.
Et inversement, les magazines genre Nous Deux,
ou les Harlequins devaient être à tout prix écrits par des femmes. Les hommes prenaient des pseudos de femmes pour écrire chez Harlequin. Voilà, donc c'était juste un jeu parce que je dirais que l'éditeur se trompait de cible.
Voilà. Il y a énormément d'hommes qui ont écrit de la romance, des romans à l'eau de rose, sous des pseudonymes féminins. Mais il y en a beaucoup.
Dire ça des premières. Voilà.
Mais c'est pareil, c'est soit l'éditeur, soit le public, enfin, ou l'éditeur en disant que c'est la faute du public qui impose quelque part que ce soit un pseudo féminin pour un roman à l'eau de rose et que ce soit un pseudo masculin.
Mais selon l'éditeur, de toute façon, il faut toujours. Il faut qu'il nous explique ce que le public.
Oui, c'est ça.
Et alors, justement, le lecteur, est-ce que vous, quand vous écrivez, vous pensez éventuellement.
Moi, je vais juste faire une nuance par rapport à la question à laquelle a répondu Nathalie, ce qui est très vrai. Il y a juste un détail. Manifestement, les éditeurs acceptent beaucoup plus facilement une négociation un peu musclée avec un auteur masculin qu'avec un auteur féminin.
C'est pourtant comme ça que j'ai fait ma place.
C'est les femmes qui ont tel
point. Il faut vraiment avoir du cœur à fond.
Mais alors encore aujourd'hui, une femme qui se bat, elle vit hystérique.
Donc Mireille Ballon, c'est facile.
Je pense que vous dites éditeur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éditrice.
Bien sûr que si.
Si. Il y a énormément d'éditrices, mais comme dans toutes les entreprises, les éditrices sont des responsables littéraires qui ont au-dessus d'elles un patron qui va être le directeur général de l'entreprise. Alors là, je peux vous dire en ce moment en France, en tout cas pour tous ceux qui sont au SNO, c'est 256 éditeurs du SNO. Un seul patron d'entreprise est féminin.
Sur 250 ?
Sur 256 éditeurs syndiqués au SNO. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que le directeur général derrière, et le PDG, derrière il y a toute l'équipe financière, celle qui va fabriquer le marketing. Et voilà, et là aussi, encore une fois, c'est le royaume des mecs.
Par contre, chez les directeurs de collection, il y a dans les genres de l'imaginaire, il y a beaucoup de femmes.
Et c'est elles d'ailleurs qui choisissent les couvertures où il y a toujours une guerrière dénudée.
Par exemple.
Non mais ça c'est parce que le public.
On avait dit qu'on parlait pas de Gilles Doumet.
Il faut toujours une fille à poil, c'est très important. C'est ça qui vend.
Mais justement, je refais.
Là.
Oui, j'avais une question très sérieuse qui m'était suggérée par Simon Blanc, mais je ne la poserai pas. Je vais poser une encore beaucoup plus sérieuse. Anne, tout à l'heure, a parlé de la réception critique de l'anthropogenèse, et j'ai le sentiment, au moins pour les littératures que je connais un tout petit peu, c'est celle de l'imaginaire, qui est une réception critique qui est très masculine,
oui.
Très masculinisée, devrais-je dire, c'est que la plupart des critiques sont des hommes. On commence à voir, alors je ne sais pas si vous le ressentez ou pas, c'est là qu'est ma question, on commence à voir à travers la chronique et sur les blogs, émerger de plus en plus de chroniques et de critiques faites par des femmes qui abordent, me semble-t-il, c'est ce que je perçois à la lecture, qui abordent effectivement les œuvres différemment. C'est-à-dire le retour critique qui est fait vers l'auteur, ou qui est fait dans le public d'ailleurs, est fait très différemment de ce qui est fait classiquement par les hommes. C'est un peu ce que je ressens, je ne sais pas comment vous le ressentez.
Moi je sais qu'au niveau de la communication qui avait été faite sur mon premier roman, il y avait eu un envoi de service de presse à beaucoup de blogs, et on peut vraiment parler de blogueuses parce qu'il n'y avait que des filles en fait. Donc vraiment, ces chroniques-là, c'était vraiment que des retours.
Parce que la majorité des lecteurs sont des lectrices.
Mais parce qu'aussi, un certain nombre de blogueurs sont très réac. Et sont beaucoup plus tournés vers une science-fiction plus classique, plus guerrière, etc., que vers des expériences, des écritures un peu plus contemporaines, un peu plus qui mélangent un peu les genres,
Oui, c'est dans ces moments-là, on se demande un peu c'est qui l'a pour l'œuf, parce que moi, en tant que fan de littérature de l'imaginaire, qui ne lit que ça, et la majorité des gens avec qui je peux en parler sont des hommes. Ça commence à changer, mais si j'ai pas choisi, moi je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir discuter avec quelqu'un, parler de Alain Damasio par exemple. Bah, je crois que pour 10 personnes à qui j'en parle, enfin pour 10 femmes à qui j'en parle, il y en a 2 qui vont savoir qui c'est, 10 hommes, il y en a 8.
Ça dépend du milieu aussi.
Ça dépend des milieux.
Alors c'est nous, c'est eux qui est eux, y a la théorie de la conspiration. Moi, par rapport à l'orientation, j'ai été envoyé en S. Alors franchement, j'aurais été en L, peut-être que je serais allé au lycée. J'ai pas eu une note au-dessus de la moyenne en scientifique, si je me souviens bien. Et je l'ai eu grâce au français et à l'anglais. Et j'ai été envoyé en S, parce que j'étais un S. Et ça existe. Je l'ai pas choisi, mais aujourd'hui, je suis obligé de faire l'effort quand je vais parler d'imaginaire. Est-ce que combien de fois je me suis pris dans la tronche par une femme? Non, mais tu sais, moi, la SF, merci quoi. Ah ouais. Avec le regard de c'est bien gentil, mais tes histoires de sabre laser, mec, laisse tomber.
Mais ce sont des gens qui connaissent pas la SF. Des gens qui disent je n'aime pas la SF et qui n'en ont jamais.
Justement, on en arrive à ouais, mais de toute façon, je suis d'imaginaire, mec.
Eh ouais.
C'est pas de la littérature.
Voilà,
tu lis de l'imaginaire, tu lis pas de la littérature.
Bah, ce n'est pas une littérature, voyons.
Pas dire de la littérature jeunesse.
On est dans une réflexion là où on vous mettait en jeu le terme de féminité. à mon avis, c'est pas le bon mot, là, dans la vie, c'est pas le bon mot, féminité. Mais c'est de toute façon un critère qui nous pose dans la société dans laquelle on vit, avec 25 000 ans derrière nous. Donc moi, contrairement à ce que vous dites depuis tout à l'heure, si il y a une écriture féminine, puisque déjà vous posez la question de la féminité qui est un mot totalement ancré dans notre quotidien tous les jours, il faudrait déjà bannir celui-là et son penchant, parce qu'ils ne peuvent être que ramenés dos à dos, recto et verso de la même médaille. S'il y a féminité d'un côté, masculinité de l'autre, on est obligatoirement d'un côté ou de l'autre. On peut passer de l'un à l'autre, mais on est obligatoirement, on ne peut pas être à deux endroits.
On peut très bien être les deux à la fois.
C'est un état, je veux dire. Soit après, après une confrontation de statut, c'est une chose, mais c'est un état, être un homme ou une femme.
C'est logique.
Par contre, sur la science-fiction, je suis assez d'accord, j'ai l'impression que la science-fiction reste très masculine, mais ça c'est peut-être plus vous qui... Statistiquement, je peux dire à peu près ce que ça représente, puisque c'est des choses que j'ai beaucoup suivies. Dans les années 70, quand j'étais un grand fan de science-fiction, jeune déjà, peut-être moins qu'on croit, enfin si, vachement jeune, quoi. 90% des lecteurs de science-fiction étaient des hommes. Mais il faut dire que 90% de la littérature de science-fiction était phallocrate. Ça n'aidait pas. Franchement, ça n'aidait pas. Ça commence à se modifier à la fin des années 70, quand on voit apparaître des traductions d'auteurs anglo-saxons chez Ailleurs et Demain, chez Présence du Futur, qui commencent à donner une place beaucoup plus importante et beaucoup moins potiche. J'ai trouvé beau le mot, il est très joli. C'était pas que des trous, les nanas, tout à coup, elles devenaient actrices et participaient à l'élaboration de l'histoire, etc. Et donc ça évolue doucement. Jusqu'au début des années 90, où on va presque atteindre le 45-55. Et puis, en même temps que la science-fiction s'est mise à reculer, c'est-à-dire début des années 2000, on voit bien qu'il y a une grosse gamelle, hein, il y a de moins en moins de titres, il y a de moins en moins d'auteurs, les chiffres de vente deviennent de plus en plus catastrophiques, et de nouveau, les lecteurs redeviennent masculins. Alors, il y a des éditeurs qui sont capables d'expliquer que c'est parce que tout un tas de lectrices qui ont découvert les littératures de l'imaginaire par l'intermédiaire de la science-fiction, ont par la suite découvert la fantasy qui était beaucoup plus adressée à elle. Ce qui pose cette question encore plus débile que « Existe-t-il une plume féminine ?» c'est « Existe-t-il une lectrice ?» Tolkien, mais Tolkien...
Non, c'est juste chiant.
Il a écrit...
Parce que c'est moins compliqué.
C'est pas grave.
C'est moins compliqué qu'il y a...
Regarde les structures de communication d'un certain nombre d'éditeurs. On va en profiter pour parler justement de celle de Bragelonne, par exemple. Quelles sont leurs cibles? Et si c'est pas clair et net, dans la façon dont c'est rédigé...
Les jeunes grand-mères et les mères de famille. Ils ont une collection spécialement pour les jeunes grand-mères.
Les futures jeunes grand-mères, les jeunes... Voilà. Tout le catalogue Bragelonne est... en termes de communication, à de très rares exceptions près, est spécifiquement orienté vers la lectrice. Et même, c'est ciblé tranche d'âge par tranche d'âge. C'est un choix qu'ils ont fait.
Tu parlais du fait que tu n'arrives vraiment à parler de SF qu'avec des copains. Moi, pendant... Oui, majoritairement. Moi, pendant très longtemps, j'étais dans le même cas. C'était surtout avec des mecs que je parlais de SF. Mais là, la plupart de mes copines lisent de la SF plutôt que de la fantasy, par exemple. Ou du elles lisent de la SF et du fantastique. Parce que la fantasy, c'est un peu mièvre. C'est chiant.
Je suis d'accord, je suis
tout d'histoire. Conclusion, on peut te présenter des filles.
C'est plein, hein. Voilà, donc maintenant tu as ta réponse, tu es rassuré, tu vas pouvoir un jour discuter.
Par contre, dis-moi, j'aimerais que tu me dises si je me plante. Je suis très sérieuse là, ne me regarde pas avec ses yeux.
Je vais tourner la tête, je te regarde pas.
Non, non. En fait, quand j'ai commencé il y a 10 ans, en France, on était vraiment très très peu de femmes à écrire de la SF pure.
Oui.
Ça se comptait sur les doigts de la main.
Oui, exact.
Et c'est monté en puissance il y a à peu près 5 ans.
Il y a 15 ans, on était 5.
Je parle en France, hein, je parle des écrivains françaises.
Il y a 15 ans, on était 5.
C'est ça, 5. Ben, moi, quand j'ai commencé, on était 6.
Voilà. Maintenant, il y en a de plus en plus, et il y a de plus en plus de filles qui s'y intéressent.
Parce que c'est des filles qui en ont
mais
lu.
Parce qu'on montre que la science-fiction, c'est pas que chiant. Il n'y a pas que de la SF pure et dure, avec des pardon, des putains de paragraphes de descriptions scientifiques, technologiques qui, moi, me font
et qui t'explique par rapport à toutes les théories scientifiques qu'il y a derrière.
Un arbre a plusieurs branches et il y a plusieurs branches qui sont intéressantes.
Il y a des femmes qui peuvent être aussi chiantes que les hommes dans ce domaine.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je crois qu'on parle de la même.
On va être sympa, c'est un auteur dénonce les Jennifer Lee.
On parle de hard science, effectivement, ce masculin ou féminin, c'est important, ça, c'est de la hard science. Ça, c'est...
Il y a, oui. Il y a une certaine peur par rapport à l'éducation.
Et le science si opéra pareil.
Si on a éduqué une fille en lui disant, bah voilà, les fameux jouets pour filles, tu feras des études littéraires parce que c'est plus filles, les garçons feront des maths, etc., elles vont avoir une espèce de peur de se lancer dans un truc qui, pour elle, doit être beaucoup trop compliqué pour elle. Alors qu'en fait, du moment où elle passe le pas,
c'est un conditionnement sociétal.
Il y a toute une génération aussi qui a eu accès au space-op par la télé aussi. Il y a ça. Alors après, il y a aussi le space-op. Il y a toute une génération qui a connu Albator, le capitaine Flamme,
Goldorak,
et donc des filles qui ont regardé du space-op, quoi, et qui sont peut-être mises à lire.
C'est pour ça que maintenant.
Parce qu'on n'avait pas la littérature adéquate à l'époque, en 70, on avait Bibliothèque Rose, on avait que le D5.
C'est pas vrai?
Oui.
Non, il y avait L'Âge des Étoiles. Il y avait L'Âge des Étoiles de Gérard Klein. Moi, c'est les premiers bouquins de SF que j'ai lus.
En jeunesse, quoi que je parle, moi, je parle pas en jeunesse.
Mais c'était en jeunesse. L'Âge des Étoiles, c'était une collection jeunesse avec des textes exceptionnels.
Voilà, ils ont fait 5 trucs et puis ils ont fermé la porte.
Il y avait aussi la collection, le livre dont vous êtes le héros.
Oui, c'est après. C'est beaucoup plus tardif.
C'était la fantaisie. Oui, c'est la fantaisie, ouais.
Chasseurs
de fantasmes, merci beaucoup. Deux têtes comme ça, il y avait 75% des auteurs dans ces deux anthologies qui sont des femmes. Qui étaient, parce qu'elles sont toutes vivantes, heureusement, qui sont des femmes. Et les auteurs masculins,
en 2000 est sorti Cosmic Erotica chez Gélu Millénaire. En 2001 est sorti son pendant masculin, dont malheureusement j'ai oublié le titre.
Ah non, pas lire. Bah, c'était pas ça le titre. C'était...
Et autant Cosmic Erotica a eu de la critique, a existé, etc., autant la version masculine, ils ont eu énormément de mal à parler, et donc ils ont eu très 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 peu de recensions, très 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 peu de visibilité pour le même genre de raison.
Mais les deux anthos dont tu parles, elles sont très récentes, hein, donc c'est 10 ans après, oui. Après ces deux anthologies-là. Les choix qui ont été faits, c'est pas des choix éditoriaux par des gros groupes d'édition, mais bien au contraire des volontés éditoriales d'éditeurs indépendants. On va travailler quelque chose, on choisit les auteurs, on leur laisse toute liberté, mais on n'a pas dit tiens, on va se taper les 10 plus grands noms de la SF et on va leur donner le truc. Ce qui était un petit peu ce qui se pratiquait chez J'ai lu quand on faisait une anthologie, hein, c'était pas très compliqué. Donc, oui, du coup, ça donne une unité qui est beaucoup plus importante. Et puis, tu as cité Jean-Claude Dugnac, il y a d'autres auteurs masculins qui étaient dedans, qui sont des auteurs dont, là aussi, on peut désespérément chercher quelque chose de masculin dans leur écriture. Mais il y a cette progression, il me semble, non, je, pas, je, J'arrive plus à me prendre la tête avec les auteurs. Enfin, il y a encore 10 ans, j'étais obligé d'engueuler certains auteurs en leur disant mais tu te rends compte de ce que tu fais des femmes dans tes bouquins? Bah c'est fini ça. J'ai plus besoin de gueuler. Il semblerait que tout le monde soit...
Que les hommes aient des filles, des femmes, voilà, et des sœurs, et elles sachent...
C'est, bien... c'est vrai aussi que tu lis tout.
C'est ouais. bien à ça que je voulais en dire. Et là, il suffit que je m'arrête de lire.
Ouais. À l'inverse, qu'est-ce que vous pensez d'un livre écrit par un homme comme... comment il s'appelle ? Un recueil de nouvelles édité par ActuSF.
Woman in Chains.
Woman in Chains de Thomas Day, sur lequel la quatrième de couverture est axée totalement là-dessus. Un univers totalement féminin, parlant des femmes, écrit.
Je peux parler?
Oui, c'est Sarah qui va répondre à la question et je vais te dire pourquoi. Parce qu'en plus, ce type de débat qui a eu lieu aux Utopiales il n'y a pas très longtemps, il y avait des femmes et un seul homme, et c'était justement Thomas Day.
Et c'est moi qui animais le débat. Mais en fait, le recueil est très intéressant. Il a une dimension féministe réelle, mais en même temps, il a une ambivalence, il a une, il a quelque chose de dérangeant, profondément dérangeant, parce que il donne parfois l'impression de caresser le machisme, de caresser le sadisme masculin dans le sens du poil, de le mettre en valeur, de l'écrire comme s'il était normal. Et c'est très gênant. En même temps, on sent la volonté de dénonciation, et en même temps, dans la manière dont il est écrit, dans la manière dont il est construit, il y a quelque, comment dire, il y a une complaisance. Voilà, et une justification. Certains textes le sont moins, mais une grande majorité des textes sont très, très ambivalents. On ne sait pas. On n'est pas toujours certain que de ce qu'il défend. Est-ce qu'il est en train de défendre la femme qui subit, ou est-ce qu'il est en train de défendre le bourreau et ses pulsions?
La facilité, enfin pas la facilité, mais c'est peut-être justement pour montrer la complexité aussi de l'humain. Ouais. Complexité. Non, bah, après, ouais. Je ne l'ai pas lu. Donc, voilà.
Non, il y a vraiment, par rapport à certains sujets, une complaisance qui est vraiment gênante.
Parce que, est-ce que vous êtes capable, quand vous lisez un bouquin, vous êtes capable de dire cet auteur a dénoncé telle chose, ou donc cet auteur est comme ça, parce que quand je finis le bouquin, mais voilà, je me représente l'auteur avec la personnalité. Comme je peux la retrouver dans le bouquin, ou est-ce que vous êtes capable de dire bah, l'auteur a réussi à montrer que tel ou tel personnage était comme ça, a réussi à... Je ne sais pas comment vous... Vous voyez ce que je veux dire ? A réussi à faire passer quelque chose sans forcément se mettre dedans ? Oui ?
Souvent, on dit qu'on est là pour poser des questions et pas donner de réponses.
Non, parce que moi, la plupart du temps, la plupart des critiques, c'est parce que vous êtes comme ça. Ouais, mais c'est parce que vous avez... Donc, alors, c'est parce que, certainement, vous êtes inspiré de ça, de machin. Moi, j'adore comment on décortique les bouquins. Mais, comment on peut être capable de décortiquer
non, mais,
un bouquin
voilà, au niveau la plupart des chroniqueurs...
Bien sûr,
il y a d'autres. La plupart des chroniqueurs et des critiques, quand ils lisent, sont persuadés non pas de lire le roman, mais de lire l'auteur. Et donc s'attendent, quand ils vont rencontrer l'auteur, à se trouver face à la personne qu'ils ont perçue avec leur propre grille de lecture en lisant le texte.
Leur grille de lecture ou leur sensibilité.
Voilà.
Leur présupposés.
Et leurs présupposés et tout le reste.
On a un exemple, enfin, je crois que le plus fascinant de l'histoire de la science-fiction, c'est Rêve de fer de Norman Spinrad. Que tous les antifascistes ont très bien compris comme étant foncièrement antifascistes.
Une critique de la fantaisie, je
crois. Aussi.
Éventuellement, mais ça, c'était les antifantaisistes. et qu'un certain nombre de néo-fascistes ont pendant un temps transformé comme un livre de chevet, quoi, parce que c'était... Voilà, ils l'ont interprété. Donc, la sensibilité du lecteur capte celle de l'auteur. Parfois, si l'auteur ne fait pas gaffe, il peut être pris à contresens.
Le film qui va être projeté, Starship Troopers, c'est aussi...
C'est la
question de la dénonciation du premier degré.
C'est vraiment selon la grille de lecture du...
Et c'est là que parfois l'éditeur est très utile, c'est-à-dire... Mais quand il ferme le truc, il se dit quel était ton propos au juste? Parce que je ne suis pas sûr que tous les lecteurs vont comprendre. Et parfois, il suffit de changer qu'une seule petite virgule. Enfin, j'en rajoute un peu. Des fois, c'est deux virgules quand même. Hein. Mais voilà, donc l'intention de l'auteur, le cœur qu'il y met, le travail qu'il va faire, n'empêche pas qu'à n'importe quel moment, ça va être lu autrement. Ça va être... C'est quelque chose de merveilleux, je trouve. On a la faculté, on emporte quelqu'un dans une histoire et on lui laisse la possibilité de boucher tous les trous qu'on a laissés exprès, les trois quarts du temps, de combler tout ça et d'inscrire ça dans son propre univers, alors que ce soit son univers imaginaire ou son quotidien. Voilà.
Starship Troopers, c'est très vrai. Moi, je l'ai vu dans des salles où la majorité du public ne voyait que le premier degré.
Mais ça a été tout le problème de Verhoeven quand il a présenté le film. Il l'a déjà présenté d'une façon qui était extrêmement particulière. Quoi.
Bah, en même temps, quand il voit l'héroïne qui a été choisie pour... la fille qui a été choisie pour jouer l'héroïne, c'est totalement marketé. C'est une cible marketing,
les hommes aussi. Et les autres femmes aussi, qui ont pourtant des esthétiques totalement différentes.
Je vous préviens, c'est presque l'heure de la cigarette. Alors, si vous avez des questions, je t'ai au-dessus. Bon, Serge, tu nous pardonnes. Ah, c'est top, c'est bien. J'adore comme ça quand on termine. Apparemment. Nous avons donc fait le tour du sujet. C'est très très clair. On va bientôt se poser des questions sur existe-t-il des écritures félines, etc. Non, mais je rappelle, en fait, le thème, c'est pas existe-t-il une écriture féminine, c'était pour en finir avec l'écriture féminine. Je crois que là, franchement, elle est achevée. Elle est morte, enterrée. Maintenant, prochain débat. Donc, je vous le rappelle, cette nuit, 4h du matin, existe-t-il un écrivain? Je vous remercie beaucoup.
Merci. Et...